VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous. 11h, temps universel. La justice sud-africaine a refusé aujourd'hui la libération conditionnelle de deux fermiers blancs poursuivis pour avoir tenté d'enfermer vivant un jeune noir dans un cercueil et avoir menacé de le brûler. Les deux hommes sont restés impassibles, tête basse, après cette décision pendant que le public réuni dans la salle d'audience où se trouvait notamment la victime a applaudi le jugement. 22 ans après la chute officielle du régime d'apartheid, les tensions raciales restent vives en Afrique du Sud, où les inégalités entre la majorité noire et la minorité blanche restent énormes. Au Mali, reprise aujourd'hui à Sikasso du procès de Amadou Aïa Sanogo, l'ancien chef de la junte militaire qui a pris le pouvoir en 2012. Mise en perspective à Sikasso, retrouvons Kassim Traoré.
À la reprise de l'audience ce jeudi 8 décembre 2016, la Cour donnera son verdict sur les exceptions des avocats de la défense. Cette décision déterminera la suite du procès. Les avocats de la défense ont présenté une batterie d'exceptions.
Le dossier n'est pas en état d'être jugé. Les expertises ont été faites contrairement à la loi. Les témoins n'ont pas comparu.
Les avocats de la défense ont contesté la compétence de la cour d'assises. Selon eux, elle ne peut pas juger cette affaire militaire. Des affirmations contredites par la partie civile. Maître Mokhtar Mariko, avocat des victimes.
La loi pénale est d'interprétation très stricte. Ce qui n'est pas dit, on ne doit pas l'inventer.
La défense a aussi estimé que ses clients sont en détention illégale. À la question de savoir si la cour ne prend pas en compte les exceptions de la défense, Maître Haruna Touré répond.
On avisera, on vous dira comment on va faire.
Sikasso, Kassim Traoré, VOA Afrique.
L'équation Yahya Jammeh après sa défaite, une semaine après l'élection du 1er décembre, remportée par le candidat de la coalition de l'opposition Adama Barrow, plusieurs scénarios ont été échafaudés. L'ancien président gambien Yahya Jammeh, qui a accepté sa défaite à l'issue de l'élection présidentielle après 22 ans au pouvoir, est accusé de graves violations des droits de l'homme par des ONG locales et étrangères. Écoutez par exemple l'avis d'Aliou Ntine, directeur d'Amnesty International pour l'Afrique centrale et de l'Ouest.
Je pense aujourd'hui qu'il est de la responsabilité de l'Union africaine, l'ONU et de la CEDEAO de faire en sorte que la transition qui s'entame soit bien sécurisée, de faire tout pour que la Gambie ne soit pas déstabilisée. C'est le travail qu'il faut faire, mais je pense que Yahya Jammeh lui-même, pour que demain les gens soient prêts à pardonner, il faut effectivement qu'il rende compte. Voilà, la reddition des comptes, quand même, c'est quelque chose de très important pour la situation de la Gambie, pour ce que les gens ont souffert pendant 22 ans, pour ne plus recommencer. Et pour dire effectivement que c'est une nouvelle voie qui a été prise pour la Gambie.
Aliou Ntine, directeur d'Amnesty International. Les Ghanéens, dans l'attente des résultats des élections présidentielles et législatives, un scrutin perçu comme un test de la stabilité de l'un des pays les plus démocratiques du continent sur fond d'économie en perte de vitesse et de scandales de corruption. 15 millions d'inscrits étaient appelés mercredi à élire leur prochain président pour un mandat de 4 ans, ainsi que leurs 275 députés. Le dépouillement se déroule dans le calme, a commenté Christopher Fomigno, observateur accrédité pour ce scrutin et directeur régional de l'Institut national démocratique, le NDI, une ONG américaine. 7 candidats étaient en lice pour cette présidentielle, dont une dame, Nana Akonadou Adjeman-Rawlings, mais la bataille se joue entre les deux rivaux, les rivaux historiques, le président sortant John Mahama du Congrès national démocratique, NDC, et le leader du NPP, nouveau parti patriotique de Nana Akufo-Addo. Les résultats sont attendus ce soir.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Et nous sommes en RDC. Un nouveau dialogue s'ouvre à Kinshasa sous la médiation de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo. Ces discussions mettront en face, d'une part, la majorité au pouvoir et l'opposition ayant pris part au premier dialogue facilité par Edem Kodjo. et de l'autre, le rassemblement que dirige Étienne Tshisekedi. L'heure est à la transmission des listes de délégués des différentes composantes aux évêques catholiques. Des détails avec Gino Rema de Top Congo FM, notre station partenaire dans la capitale de la RDC.
Ces assises de 3 jours vont se dérouler au siège de la conférence épiscopale à Kinshasa. Les différentes parties prenantes consultées par les évêques catholiques déposent les listes de leurs délégués à ce qu'on appelle négociation directe entre l'opposition et la majorité présidentielle. Les évêques ont souhaité 15 délégués pour la partie qui a pris part au dialogue de la cité de l'Union africaine et 15 autres pour ceux qui n'y ont pas pris part. Ces 15 délégués des non-signataires de l'accord de Kodjo devraient venir du rassemblement du Front pour le respect de la Constitution et de la société civile non-signataire de l'accord. Les conclusions des négociations devraient être prêtes avant le 19 décembre prochain. Ces négociations directes débuteront ce week-end et porteront sur 6 points techniques contenus dans l'accord de la cité de l'Union africaine, tel que résumé par la CENCO. Depuis Kinshasa, Gino Rema, Top Congo pour VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, le Parti démocrate s'interroge sur son avenir après la débâcle de novembre qui lui a ravi la Maison-Blanche tout en maintenant les républicains aux commandes du Congrès. Les précisions, Lionel Gaïma.
Dans le sillage de la défaite d'Hillary Clinton à la présidentielle face au républicain Donald Trump, les démocrates font leur examen des consciences, explique l'analyste John Fortier. Où le parti doit-il aller? Doit-il se tourner vers ses personnalités plus progressistes comme la sénatrice Elizabeth Warren du Massachusetts ou le sénateur Bernie Sanders du Vermont? Qui pousserait le parti plus à gauche ou dans la direction choisie par Hillary Clinton, c'est-à-dire plus au centre? Le sénateur Sanders semble impatient d'assumer un rôle clé dans ce processus, exhortant les démocrates à réexaminer leurs efforts en direction des électeurs de couches laborieuses. Ils sont des millions de personnes aujourd'hui, des gens de la classe ouvrière, de la classe moyenne, des gens de bas revenus vivant dans le désespoir. Le besoin de changement a été bien illustré par la tentative infructueuse du député Tim Ryan de l'Ohio de déboulonner Madame Nancy Pelosi de son poste de chef de la minorité démocrate à la Chambre de représentants. Je crois dans mon cœur, dit-il, que si nous comptons gagner en tant que démocrates, nous devons avoir un message économique ayant un impact dans tous les coins de ce pays. L'avenir du Parti démocrate est aussi au centre des préoccupations du président sortant Barack Obama. Il doit donc y avoir des valeurs clés, ne devant pas faire l'objet du débat, et qui doivent être notre toile polaire. Mais nous devons prendre le temps de réfléchir sur la manière de nous organiser. De nombreux blancs de la classe ouvrière ont voté pour Donald Trump, souligne l'analyste conservateur Fred Barnes. Trump a accompli ce qu'à mon avis, les républicains n'allaient peut-être jamais réussir, gagner la Pennsylvanie, l'Ohio, le Michigan et le Wisconsin, la ceinture industrielle qui compte tant de membres de la classe ouvrière, dont un bon nombre au chômage. Les démocrates du Congrès devront donc décider, après la cérémonie d'investiture présidentielle du 20 janvier, sur quel front ils s'opposeront à Donald Trump et sur quels autres ils trouveront un terrain d'entente.
Washington, 6h08, des députés sud-coréens ont déposé aujourd'hui une motion de destitution contre la présidente Park Geun-hye, empêtrée depuis de longues semaines dans un retentissant scandale de corruption qui secoue le pays et paralyse son gouvernement. Le texte accuse Mme Park de violation de la Constitution et de délits pénaux allant de son échec à protéger le peuple, à la corruption et à l'abus de pouvoir. En cas de feu vert de cette cour, Mme Park deviendrait le premier chef de l'État sud-coréen démocratique élu à ne pas terminer son mandat de 5 ans. Et puis les forces du régime syrien appuyées par des combattants étrangers poursuivaient aujourd'hui leur avancée vers les derniers quartiers rebelles d'Alep, dont la reconquête totale représenterait un tournant dans la guerre selon le président Bachar al-Assad. Fort de ses succès militaires et des soutiens cruciaux russes et iraniens, le régime a refusé les appels à cesser le feu et veut coûte que coûte s'emparer de l'ensemble de la deuxième ville du pays, une prise qui constituerait sa plus importante victoire depuis le début de la guerre en 2011. Les Russes et les Américains qui soutiennent, eux, l'opposition à M. Assad n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une issue à Alep après une énième rencontre alors que les civils assiégés depuis 4 mois sont soumis au déluge de feu du régime syrien et manquent totalement de tout. Vous écoutez VOA Afrique. Ce journal est terminé. Merci de vous l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. On se retrouve, vous retrouverez dans 50 minutes Henri Francisque pour un nouveau point de l'actualité dans exactement 50 minutes. Merci et à tout à l'heure pour ce nouveau journal dans 50 minutes jeudi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.